Comte de Gascogne par Jean-François Bladé. Extrait des Contes merveilleux des pays de France, collecté par Dagmar Fink. Troisième cassette, première face, La belle Jeanneton. Il y avait une fois un roi et une reine de France qui avaient un fils beau comme le jour. Chaque matin, à la pointe de l'aube, ce jeune homme partait pour la chasse avec ses 100 piqueux. Un piqueux, P-I-Q-U-E-U-R, c'est un valet de chiens pour la chasse. Et ses 700 chiens. Jamais il ne manquait de rentrer avant le coucher du soleil. Mais un soir, le cheval du fils du roi de France rentra seul. Son maître était perdu loin de ses gens, perdu au milieu d'un bois. La nuit était noire et les loups hurlaient. Ouh, ouh, ouh. Alors le fils du roi grimpa jusqu'à la cime d'un grand chêne et regarda vers les quatre vents du ciel. Rien. Le fils du roi de France descendit de la cime du grand chêne, se coucha par terre et s'endormit, son épée nue dans la main. Quand il se réveilla, le soleil se levait et les oisillons chantaient. Tout le long du jour, le fils du roi de France marcha, perdu au milieu du bois, buvant aux sources, mangeant des herbes et des fruits sauvages. Puis vint la nuit noire. Les loups hurlaient. Ouh, ouh, ouh. Alors le fils du roi de France grimpa jusqu'à la cime d'un grand chêne et regarda vers les quatre vents du ciel. Rien. Le fils du roi de France descendit de la cime du grand chêne, se coucha par terre et s'endormit, son épée nue dans la main. Quand il se réveilla, le soleil se levait et les oisillons chantaient. Tout le long du jour, le fils du roi de France marcha, perdu au milieu du bois, buvant aux sources, mangeant des herbes et des fruits sauvages. Puis vint la nuit noire. Les loups hurlaient. Ouh, 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 ouh. Alors le fils du roi de France grimpa jusqu'à la cime d'un grand chêne et regarda vers les quatre vents du ciel. Enfin, du côté nord, il aperçut loin, bien loin, une petite lumière. Le fils du roi de France descendit de la cime du grand chêne et marcha longtemps, longtemps du côté du nord. Une heure avant minuit, il frappait à la porte d'un château perdu au milieu des bois. Une demoiselle, belle comme le jour, vint ouvrir la porte. « Bonsoir, demoiselle, je suis le fils du roi de France. Depuis 3 jours et 3 nuits, je marche, perdu dans ce bois. Je crève de soif et de faim. Je ne puis plus mettre un pied devant l'autre. Demoiselle, faites-moi souper et logez-moi jusqu'à demain. » Fils du roi de France, entre, soupe vite et va-t'en. C'est ici le château de mon père et de ma mère, le château de l'ogre et de l'ogresse. Tous deux sont gourmands de chair baptisée. Tous deux achèvent de faire leur ronde dans le bois. Mais ils rentreront sur le premier coup de minuit. Je ne veux pas qu'ils te mangent tout vif. Fils du roi de France, entre, soupe vite et va-t'en. Demoiselle, je ne puis plus mettre un pied devant l'autre. Eh bien, fils du roi de France, entre, soupe vite et cache-toi sous ce cuvier. Ce qui fut dit fut fait. L'ogre et l'ogresse rentrèrent sur le premier coup de minuit. C'étaient des géants hauts de 2 toises, 4 mètres, et noirs comme l'âtre. Les ogres et les ogresses ne sont pas de la race des chrétiens.
« Oh, belle Jeanneton, ça sent ici la chair baptisée !»«
Non, père, non, mère, il n'y a pas ici de chair baptisée. Cherchez, vous verrez que je ne mens pas. » L'ogre et l'ogresse cherchèrent sans rien trouver.
Oh, 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 belle Jeanneton, ça sent ici la chair baptisée. Va te coucher. Demain, nous chercherons mieux. Si tu as menti, nous te mangerons toute vive.
L'ogre et l'ogresse se couchèrent, mais la belle Jeanneton n'était pas si pressée. Avec une pelletée de cendre et un verre de son sang, elle pétrissait un gâteau qui avait le pouvoir de répondre pour elle jusqu'à la pointe du jour. Le gâteau pétri, la belle Jeanneton prit le bâton et les bottes de 50 lieues de l'ogre et de l'ogresse. Cela fait, elle souleva le cuvier, doucement, bien doucement.
« Fils du roi de France, décampons vite, il ne fait pas bon ici pour nous. »
Tous deux partirent comme le vent. Mais l'ogre et l'ogresse se méfiaient et ne dormaient que d'un œil.
« Ouhou, belle Jeanneton, va te coucher !»
Le gâteau pétri de cendres et de sang répondit. « J'y vais, le temps d'ôter ma coiffe. » L'ogre et l'ogresse se rendormirent un moment.
« Ouhou, belle Jeanneton, va te coucher !»
Le gâteau pétri de cendres et de sang répondit. « J'y vais, le temps d'ôter mon juste au corps. » L'ogre et l'ogresse se rendormirent un moment.
« Ouhou, belle Jeanneton, va te coucher !»
Le gâteau pétri de cendres et de sang répondit. « J'y vais, le temps d'ôter mon cotillon. » L'ogre et l'ogresse se rendormirent un moment.
« Ouh, belle Jeanneton, va te coucher !»
Le gâteau pétri de cendres et de sang répondit. « J'y vais, le temps de me coiffer de nuit. » L'ogre et l'ogresse se rendormirent un moment.
« Ouh, belle Jeanneton, va te coucher !»
Le gâteau pétri de cendres et de sang répondit. « J'y vais, le temps d'ôter mes souliers. » L'ogre et l'ogresse se rendormirent un moment.
« Ouh, belle Jeanneton, va te coucher !»
La pointe du jour était venue. Le gâteau pétri de cendres et de sang n'avait plus le pouvoir de répondre pour la belle Jeanneton.
Alors l'ogresse sauta du lit. « Ouh, mille dieux, milliards de dieux, la belle Jeanneton et la chair baptisée ont décampé avec le bâton et les bottes de 50 lieues. Pars vite, mon homme, j'entends que tu les rattrapes dans une heure. » « Nous les mangerons tout vif !»
L'ogre prit son bâton et ses bottes de 100 lieues. Il partit comme l'éclair, de sorte que la belle Jeanneton et le fils du roi de France eurent bientôt perdu leur avance.
« Oh 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 !» cria l'ogre. « Attendez, brigands ! Attendez, canailles !»
Mais la belle Jeanneton avait remède à bien des choses. Par son pouvoir magique, elle et le fils du roi de France furent aussitôt changés en un oiselet et une oiselette chantant sur un buisson au bord du chemin. L'ogre s'arrêta pour les questionner.
« Ouh, ouh, oiselet, oiselette, avez-vous vu un garçon et une fillette ?»
L'ogre n'en tira pas davantage et retourna dans son château, tandis que la belle Jeanneton et le fils du roi de France repartaient comme le vent.
« Ouh, eh bien, mon homme, dit l'ogresse, as-tu rattrapé la belle Jeanneton et la chair baptisée ?»« Ouh, je n'ai trouvé qu'un oiselet et une oiselette chantant sur un buisson au bord du chemin. Je les ai questionnés, ils m'ont répondu. » Je n'en ai pas tiré davantage. Oh oh, imbécile, dit l'ogresse. C'était eux. Repars vite, mon homme. J'entends que tu les rattrapes dans une heure. Nous les mangerons tout vifs.
L'ogre repartit comme l'éclair, de sorte que la belle Jeanneton et le fils du roi de France eurent bientôt perdu leur avance.
Oh oh, criait l'ogre. Attendez, brigands, attendez, canailles.
Mais la belle Jeanneton avait remède à bien des choses. Par son pouvoir magique, elle et le fils du roi de France furent aussitôt changés en un caneton et une canette, barbotant et criant dans un fossé au bord du chemin.
Coin, 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 coin. Coin, coin, coin.
L'ogre s'arrêta pour les questionner.
Ouhou, caneton, canette, avez-vous vu un garçon et une fillette?
Coin, 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 coin. Coin, 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 coin.
L'ogre n'en tira pas davantage et retourna dans son château, tandis que la belle Jeanneton et le fils du roi de France repartaient comme le vent.
Ouhou! Eh bien, mon homme, dit l'ogresse, as-tu rattrapé la belle Jeanneton et la chère baptisée? Ouhou! Je n'ai trouvé qu'un caneton et une canette, barbotant et criant dans un fossé au bord du chemin. Je les ai questionnés et ils m'ont répondu.
Coin, 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 coin. Coin, 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 coin.
Je n'ai pas pu en tirer davantage. Houhou, dit l'ogresse. Imbécile, c'était eux. Repars vite, mon homme. J'entends que tu les rattrapes dans une heure. Nous les mangerons tout vifs.
L'ogre repartit comme l'éclair, de sorte que la belle Jeanneton et le fils du roi de France eurent bientôt perdu leur avance.
Houhou, criait l'ogre. Attendez, brigand, attendez, canaille.
Mais la belle Jeanneton avait remède à bien des choses. Par son pouvoir magique, elle et le fils du roi de France furent aussitôt changés en une bergerette belle comme le soleil, la bergerette Bernadette gardant son troupeau au bord du chemin.
Bé, bé, bé.
L'ogre s'arrêta pour les questionner.
Ouhou, Bernadette, bergerette, soleillette, brebillette. Avez-vous vu un garçon et une fillette?
Bé, bé, bé.
L'ogre n'en tira pas davantage et retourna dans son château, tandis que la belle Jeanneton et le fils du roi de France repartaient comme le vent.
Ouhou, eh bien mon homme, dit l'ogresse, as-tu rattrapé la belle Jeanneton et la chère baptisée? Ouhou, je n'ai retrouvé qu'une bergerette belle comme le soleil. La bergerette Bernadette, gardant ses brebis au bord du chemin. Je les ai questionnés, ils m'ont répondu.
Bé, bé, bé.
Je n'ai pu en tirer davantage. Ouhou, imbécile, c'était eux, dit l'ogresse. Repars vite, mon homme. J'entends que tu les rattrapes dans une heure. Nous les mangerons tout vifs.
L'ogre repartit comme un éclair. Mais cette fois, la belle Jeanneton et le fils du roi de France avaient pris tant d'avance que l'ogre ne put les atteindre. 7 jours après, tous deux arrivaient au Louvre du roi de France.
« Bonjour, bonjour, chers parents. »«
Bonjour, pauvre ami, nous te pleurions comme mort. »«
Chers parents, j'avais affaire à un ogre et à une ogresse, gourmand de chair baptisée. »« J'étais perdu sans cette demoiselle, sans la belle Jeanneton. » « Chers parents, j'en suis amoureux plus que je ne puis dire. Donnez-la-moi pour femme, sinon je pars pour les îles et je n'en reviendrai jamais, jamais. »«
Pauvre ami, dit le roi, tu ne partiras pas pour les îles. Épouse la belle Jeanneton. »
Ce qui fut dit fut fait. Longtemps, bien longtemps, le fils du roi de France et la belle Jeanneton vécurent riches et heureux. Le 11e conte s'appelle « Le roi des corbeaux ». Il y avait une fois un homme qui était vert comme l'herbe et qui n'avait qu'un œil au beau milieu du front. Cet homme vert demeurait au bord du bois du ramier, Héra et Mihemer, dans une vieille maison. Avec lui vivaient ses 3 filles. L'aînée, belle comme le jour, la cadette, plus belle que l'aînée, et la dernière, qui n'avait que 10 ans, plus belle que les 2 autres. Un soir d'hiver, l'homme vert était à sa fenêtre. La nuit venait et la brume montait de la rivière du Gers, G-E-R-S. Tout à coup, il se fit un grand bruit d'ailes. Un oiseau grand comme un taureau et noir comme l'âtre vint se jucher au bord de la fenêtre.
« Quoi, quoi, quoi ? Je suis le roi des corbeaux. »«
Roi des corbeaux, que me veux-tu ? » ?»«
Quoi, quoi, quoi ? Homme vert, je veux une de tes 3 filles en mariage. »
« Roi des corbeaux, attends-moi là. »
L'homme vert s'en alla dans la chambre de ses trois filles. « Mes filles, écoutez. Le roi des corbeaux est venu. Il veut une de vous trois en mariage. »«
Père, dit l'aîné, je me suis fiancé il y a bientôt un an avec le fils du roi d'Espagne. Hier, mon galant m'a fait dire par un pèlerin de Saint-Jacques qu'il viendrait bientôt me chercher pour me mener dans son pays. Vous voyez bien, père, que je ne peux pas épouser le roi des corbeaux. »
« Père, dit la cadette, je me suis fiancée il y a bientôt un an avec le fils du roi des îles de la mer. Hier, mon galant m'a fait dire qu'il viendrait bientôt me chercher pour me mener dans son pays. Vous voyez bien, père, que je ne peux pas épouser le roi des corbeaux. »
Alors l'homme vert regarda sa dernière fille. En la voyant toute jeunette, il eut pitié d'elle et pensa: « Si je marie cet enfant au roi des corbeaux, je suis damné pour toujours. » Donc l'homme vert ne demanda rien à sa dernière fille et revint trouver le roi des corbeaux, toujours juché sur le bord de la fenêtre. « Roi des corbeaux, aucune de mes filles ne veut de toi. » Alors le roi des corbeaux entra dans une terrible colère. D'un grand coup de bec, il creva l'œil que l'homme vert avait au beau milieu du front, puis il s'envola dans la brume. L'homme vert se mit à crier comme un possédé du diable. À ses cris, ses trois filles accoururent.
« Père, qu'avez-vous? Qui vous a crevé l'œil ?»«
C'est le roi des corbeaux. Toutes trois vous l'avez refusé en mariage. »
« Père, dit la dernière fille, je ne suis pas née pour vous démentir. Pourtant, je n'ai pas refusé le roi des corbeaux en mariage. »
« C'est bien. Mène-moi vers mon lit. « Que nul n'entre dans ma chambre si je n'appelle. » La troisième fille fit comme son père avait commandé. Le lendemain soir, l'homme vert appela sa troisième fille et lui dit: « Mène-moi dans la chambre où j'étais hier quand le roi des corbeaux m'a crevé l'œil. Ouvre la fenêtre et laisse-moi seul. » La troisième fille fit comme son père avait commandé. Alors l'homme vert se mit à la fenêtre. La nuit venait et la brume montait de la rivière du Gers. Tout à coup, il se fit un grand bruit d'ailes. Un oiseau, grand comme un taureau et noir comme l'âtre, vint se jucher au bord de la fenêtre.
« Quoi, 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 je suis le roi des corbeaux. »«
Roi des corbeaux, que me veux-tu ? » ?»«
Quoi, 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 homme vert, je veux une de tes trois filles en mariage. » »«
Roi des corbeaux, tu auras ma troisième fille. » Alors le roi des corbeaux rendit la vue à l'homme vert et cria
« Quoi, quoi, quoi ? Dis à ma fiancée d'être prête demain matin au point du jour avec sa robe blanche et sa couronne nuptiale. »
Le lendemain, au point du jour, le ciel était noir de corbeaux. Devant la maison de l'homme vert, il préparait un autel pour dire la messe du mariage. Au pied de l'autel se tenait le roi des corbeaux, caché sous un grand linceul blanc comme neige. Quand tout fut prêt, et quand les cierges furent allumés, un prêtre, venu on ne sait d'où, arriva avec son clerc pour dire la messe du mariage. La messe finie, le prêtre et son clerc s'en allèrent comme ils étaient venus. Le roi des corbeaux demeurait toujours caché sous le grand linceul blanc comme neige.
« Quoi, quoi, quoi ? Emmenez ma femme chez son père. »
On emmena la femme chez son père. Alors le roi des corbeaux sortit dessous le grand linceul blanc comme neige.
« Quoi, 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 homme vert, garde ta fille jusqu'à midi. À cette heure, mes corbeaux ont ordre de l'emporter dans mon pays. »
Et il s'envola vers le nord. À midi, la femme était sur le seuil de la maison.
« Adieu, mon père. Adieu, mes sœurs. Je quitte ma terre et ma maison. Je vais en pays étranger. Je ne reviendrai jamais, jamais. »
Alors, les corbeaux prirent leur reine et l'emportèrent à travers les airs, dans le pays du froid, dans le pays de la glace, où il n'y a ni arbres ni verdure. Avant le coucher du soleil, ils avaient fait 3000 lieues. La reine était arrivée devant la porte maîtresse de son château.
« Merci, corbeau. Je n'oublierai pas le service que vous m'avez rendu. Maintenant, allez souper et dormir. Certes, vous l'avez bien gagné. »
Les corbeaux partirent et la reine entra dans son château. Il était 7 fois plus grand que l'église de Saint-Gervais de Lectoure. Partout brûlaient des lumières. Les cheminées flambaient comme des fours de tuiliers.
Pourtant, la reine ne vit personne. Tout en se promenant de chambre en chambre, elle arriva dans une grande salle où il y avait une table chargée de plats et de vins de toute espèce. Un seul couvert était mis. La reine s'assit. Mais elle n'avait pas le cœur à boire et à manger, car elle pensait toujours aux siens et à son pays. Une heure après, la reine s'alla coucher dans un lit fermé de rideaux d'or et d'argent et attendit, sans dormir, en laissant brûler la lumière. Sur le premier coup de minuit, il se fit un grand bruit d'ailes. C'était le roi des corbeaux qui rentrait pour se coucher. Il s'arrêta derrière la porte de la chambre où sa femme était couchée.
« Quac, 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 femme, souffle la lumière. »
La reine souffla la lumière et le roi des corbeaux entra dans l'obscurité.
« Quac, 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 femme, écoute. Ici, nous ne parlons pas pour ne rien dire. Autrefois, j'étais roi sur les hommes. Maintenant, je suis roi des corbeaux. Un méchant gueux qui a grand pouvoir nous a changés en bêtes, moi et mon peuple. Mais il est dit que notre épreuve finira. Pour cela, tu peux beaucoup. Je compte que tu feras ton devoir. Toutes les nuits, comme ce soir, je viendrai dormir à ton côté. Mais tu n'as encore que 10 ans. Tu ne seras vraiment ma femme qu'après 7 ans passés. Jusque-là, garde-toi bien d'essayer de me voir jamais. Sinon, il arriverait de grands malheurs à moi, à toi, et à mon peuple. Roi des corbeaux, vous serez obéi. » Alors, la reine entendit le roi des corbeaux qui se dépouillait de ses ailes et de son plumage. Cela fait, il vint se coucher dans le lit. La reine eut peur. Elle avança la main et sentit le froid d'une épée nue que son mari avait mise entre lui et elle. Le lendemain matin, avant le jour, le roi des corbeaux se leva dans l'obscurité, retira l'épée nue du lit, revêtit ses ailes et son plumage et partit sans dire où il allait. Dorénavant, il en fut de même matin et soir. Pourtant, la reine craignait et aimait le roi des corbeaux parce qu'elle savait qu'il était fort et hardi. La pauvrette s'ennuyait à vivre ainsi, sans parler jamais à personne. Pour se divertir un peu, elle partait souvent de grand matin avec un panier plein de vivres. Elle courait la campagne à travers la neige et la glace jusqu'à l'entrée de la nuit. Jamais elle ne rencontrait âme qui vive. Un matin, tout en se promenant ainsi, loin du château, la reine aperçut une montagne haute et sans neige. Voilà la reine partie. Après 7 heures de montée, elle arriva devant une pauvre cabane tout à côté d'un lavoir. Au bord du lavoir travaillait une lavandière, ridée comme un vieux cuir et vieille comme un chemin. La lavandière chantait en tordant un linge noir comme la suie. « Féfé, ta lessive n'est pas encore achevée, la Vierge mariée n'est pas encore arrivée, Féfé. » « Bonjour, lavandière, dit la reine, je vais vous aider à laver votre linge noir comme la suie. » « Avec plaisir, pauvrette. » La reine n'eut pas plutôt plongé le linge dans l'eau qu'il devint blanc comme le lait. Alors la vieille lavandière se mit à chanter. « Féfé, ta lessive est achevée, la Vierge mariée est arrivée, Féfé. » Puis la lavandière dit à la reine. « Pauvrette, il y a bien longtemps que je t'attendais. Mes épreuves à moi sont achevées, et c'est toi qui en es cause. Toi, pauvrette, tu n'as pas fini de souffrir. Ton mari t'a donné de bons conseils, mais les conseils ne servent à rien, et ce qui doit arriver ne manque jamais. Maintenant, passe ton chemin, et ne reviens ici que dans un jour de grand besoin. » La reine retourna au château reprendre sa vie de chaque jour et de chaque nuit. Il y avait tout juste 7 ans moins un jour que le roi des corbeaux l'avait épousée devant la maison de l'homme vert au bord du bois du ramier. Alors, la reine pensa, le temps de mon épreuve va finir. Un jour de plus, un jour de moins, ce n'est rien. Cette nuit, je saurai comment est fait le roi des corbeaux. Le soir venu, la reine alluma une lumière dans sa chambre et la cacha si bien
qu'il y faisait noir comme dans un four. Cela fait, elle se coucha et attendit. Sur le premier coup de minuit, il se fit un grand bruit d'ailes. C'était le roi des corbeaux qui rentrait pour se coucher. La reine l'entendit qui se dépouillait, comme de coutume, de ses ailes et de son plumage. Cela fait, il se mit au lit, plaça l'épée nue entre lui et sa femme et s'endormit. Alors, la reine alla chercher la lumière qu'elle avait cachée et regarda son mari. C'était un homme, beau comme le jour. « Mon Dieu, comme mon mari est beau !» La reine se rapprocha du lit avec sa lumière pour mieux voir et laissa tomber un peu de cire bouillante sur son mari. Le roi des corbeaux se réveilla. « Femme, dit-il, tu es cause de grand malheur pour moi, pour toi et pour mon peuple. Demain, notre épreuve était finie. J'allais être vraiment ton mari sous la forme où tu me vois. Mais maintenant, je vais être séparé du monde. Le méchant gueux qui me tient en son pouvoir fera de moi ce qu'il voudra. Mais ce qui est fait, et le regret ne sert de rien. Je te pardonne le mal que tu m'as fait. Sors de ce château où il va se passer des choses que tu ne dois pas voir. Pars et que le bon Dieu t'accompagne partout où tu t'en iras. » La reine sortit en pleurant. Alors le méchant gueux qui tenait le roi des corbeaux en son pouvoir entra dans la chambre, enchaîna son ennemi avec une chaîne de fer du poids de 7 quintaux et l'emporta à travers les nuages sur la cime d'une haute montagne dans une île de la mer. Là, il enfonça le bout de la chaîne dans le roc et le consolida avec du plomb et du soufre, mieux que n'eût fait le meilleur maître serrurier. Cela fait, il siffla. Aussitôt accoururent deux loups grands comme des taureaux, l'un noir comme suie, l'autre blanc comme neige. Le loup blanc veillait le jour et dormait la nuit. Le loup noir veillait la nuit et dormait le jour. « Loup, gardez bien le roi des corbeaux !»« Maître, vous serez obéi. » Le méchant gueux partit et le roi des corbeaux demeura seul avec les deux loups enchaînés sur la cime d'une haute montagne dans une île de la mer. Fin de la première face de la troisième cassette des Contes de Gascogne de Jean Bladé, extrait des Contes merveilleux des pays de France, collecté par Dagmar Fink. La suite et fin de l'histoire du roi des corbeaux est sur la deuxième face de cette cassette. Laisse celle-ci se dérouler jusqu'au bout avant de retourner la cassette.